matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
Ils sont déjà en train de discuter nos esprits libres. Sophie Obadia, bonjour.
Bonjour.
Avocate spécialiste en droit pénal et Marc Lambon, bonjour.
Bonjour.
Écrivain et académicien, alors la pratique de la lecture s'effondre chez les jeunes Français. Une étude Ipsos pour le Centre National du Livre, c'est le salon du livre, festival du livre ce week-end. Les 16-19 ans consacrent 1h25 par semaine à la lecture contre 5h10 par jour aux écrans. Marc Lambon, l'académicien que vous êtes, est forcément préoccupé, voire horrifié.
Soit je vous fais le lamento décadentiste, je peux faire, soit je vous dis que c'est systémique. C'est-à-dire, moi, quand j'étais enfant, mettons dans les années 60, qu'est-ce qui pouvait m'éloigner du livre ? Il y avait éventuellement le téléphone, il y avait la télévision, mais mes parents ne l'avaient pas, il y avait le tourne-disque, il y avait le transistor, c'était à peu près tout. À l'époque de Proust, il n'y avait rien. Peut-être un phonographe ou et les premiers téléphones. Bon, donc il est évident maintenant qu'avec la démultiplication...
Je note qu'il n'y a pas à sortir jouer au football, dans tout ce que vous avez dit.
Non, parce que j'étais indoor, comme on dit en bon français. à l'intérieur. Mais, en effet, alors, maintenant, vous avez cette démultiplication exponentielle des écrans, des usages, des séductions et des périls qui s'y attachent. On l'a vu déjà il y a 25 ans avec les jeux vidéo. Et maintenant, comme l'univers tient dans une coquille de noix, comme disait Shakespeare dans une de ses tragédies, coquille de noix, c'est le téléphone, donc je ne suis pas étonné. Alors après, on peut réfléchir, mais ça, Maître Obadia, qui défend les citoyens, peut aussi défendre la lecture.
Je défends aussi les adolescentes. Puis j'ai une adolescente encore à la maison, et qui effectivement lit avec le portable à la main. Donc c'est quand même, vous voyez, une espèce de...
C'est-à-dire qu'il y a le livre et le portable.
Et le livre et le portable.
Micelle électronique.
Voilà, le micelle électronique en main. Donc je crois qu'on a vraiment un... Moi, je suis triste de voir qu'on ne peut pas flâner à travers le livre comme je l'ai fait enfant, effectivement. Je trouve ça dommageable et donc j'incite parce que je crois que si on dit « prends un livre, arrête avec le portable », c'est une injonction qui vient d'un boomer, ça n'a aucun effet. Donc, il s'agirait peut-être de relire à voix haute, par exemple. Vous voyez, la lecture à voix haute, c'est quelque chose qui peut inciter un enfant ou un jeune à avoir envie de continuer. D'ailleurs, j'observe qu'il y a des formations de plus en plus répandues. Il y a notamment une formation à la Sorbonne de lecture à voix haute qui est géniale.
Pourquoi ça change quoi de lire à voix haute ?
Eh bien, parce que vous avez... votre voix qui résonne, vous avez l'univers qui s'installe, vous ne pouvez pas regarder le portable en lisant à voix haute, a priori.
On lit plus lentement à voix haute.
On lit plus lentement, c'est presque théâtral, je pense que ça peut être une bonne incitation à la lecture.
Ça vaut à l'école, quand on étudie Racine, Molière ou Musset, et bien pourquoi ne pas faire jouer comme une sellette ou faire lire en effet à voix haute les textes par les
et mêmes. La deuxième chose, c'est d'avoir une bibliothèque chez soi, qui soit ouverte et qui soit visible. Vous savez que le fabricant de meubles en kit ne fabrique plus de bibliothèque, puisque les Américains ne lisent plus, donc nous n'avons plus de bibliothèque. Je crois que c'est encore un meuble et peut-être même une pièce à conserver.
C'est comme le livre qui est devenu un livre de table ornementale.
Oui, de décoration.
Or, disait Malraux, une bibliothèque, c'est l'héritage de la noblesse du monde. Mais qu'est-ce qui est noble, comme disait Nietzsche, le cuistre ce matin, c'est aussi une question qui est posée à notre époque.
Mais vous dites, Marc Lambon, c'est systémique. Certes, oui, les écrans sont là et donc c'est logique, mais vous avez l'air de ne pas regretter que les Français jeunes ne lisent pas. Est-ce qu'il n'y a pas un problème qui vient du fait du manque de lecture ?
Je crois que le manque de lecture, c'est une restriction ou une migration de l'imaginaire. C'est-à-dire que, moi, ce que j'ai senti quand j'avais 7-8 ans, c'est que j'ouvrais un livre, il y avait un pouvoir multiplicateur de la littérature. C'est-à-dire que ça vous sort de la contingence et ça vous projette vers d'autres époques, d'autres récits, d'autres personnages. Bon, si tout ça est maintenant suppléé par des images, très bien. Mais le propre d'un livre, c'est qu'il a son propre... il génère son propre rythme de lecture. C'est quand même la magie. Si vous lisez Tolstoï et qu'il vous dit 10 000 hommes surgir sur la colline, c'est 6 ou 7 mots, et vous avez un univers, une scène dans le verbe.
C'est l'imagination et c'est aussi un développement de la pensée complexe, la lecture. Parce qu'on va y venir peut-être pour l'école, mais le fait d'avoir une pensée complexe un peu nuancée peut aider quand même dans les rapports humains et dans la civilisation.
Alors, malheur justement. À moi, je suis nuancé, dit Nietzsche. Je n'arrête pas ce matin.
Peut-on faire précisément un lien avec ce qui va suivre, la violence, donc autour de l'école? Les obsèques du jeune Chebsedine ont eu lieu hier. Cet ado de 15 ans, battu à en mourir la semaine dernière, probablement pour avoir discuté avec une jeune fille, notamment de sexualité. Il y a également eu la violente agression de la jeune Samara à Montpellier il y a 8 jours. Est-ce qu'il s'agit, Sophie Obadia, de faits divers isolés que l'actualité rapproche ou de symptômes d'un phénomène plus structurel, là aussi, plus systémique?
Non, très clairement, la violence touche la jeunesse. Bon, ça n'est pas nouveau hein, que la jeunesse soit violente. Moi, j'ai déjà défendu même des jeunes filles, parce qu'il y a des jeunes filles violentes, il y a de nombreuses années. Donc, ça n'est pas nouveau. En revanche, il semble que les statistiques nous disent que c'est de plus en plus jeune que la violence s'exprime, parce que les coups partent plus vite. Les moyens d'être violents aussi se sont développés. Je pense encore une fois au numérique, avec le happy slapping, c'est-à-dire notamment de pouvoir filmer une agression en meute et de pouvoir la montrer à son réseau. Donc ça, ce sont des nouvelles formes de violence qu'il est important de regarder en face. Et j'ai envie de dire, ça n'est pas nécessairement, comme on l'a cru, communautaire. Non, tout permet d'être violent. Un mauvais regard, un vêtement à connotation religieuse ou pas, une histoire d'amour mal comprise, une rivalité entre jeunes, tout permet aujourd'hui un déchaînement de violence, une forme d'ensauvagement, puisque le terme est aujourd'hui à peu près acquis. Mais il y a des raisons. Je pense qu'on en parlera. Il y a un phénomène statistique, mais il y a aussi des raisons. Et je parlerai, si on en a l'occasion, de Maurice Berger. Parce que Maurice Berger, aujourd'hui, c'est un pédopsychiatre qui est très exploité, dont la pensée est un peu récupérée par l'extrême droite notamment. Mais en réalité, il connaît très très bien la violence des jeunes. Ça fait 30 ans qu'il travaille sur ce sujet. Et il dit que ça n'est pas la ghettoisation, comme on l'a cru longtemps, qui est la raison unique, puisque l'extrême violence, vous la trouvez également dans les beaux quartiers. Hein. Ça n'est pas réservé à des quartiers défavorisés, même si là, les faits divers permettent de dire qu'on était dans des collèges dits prioritaires. Non, ce qui est intéressant, c'est la psychologie. Et on revient à la lecture. C'est-à-dire de voir que le jeune, le très jeune, lorsqu'il n'a pas reçu un minimum d'éducation verbalisée, et notamment à travers la lecture, à travers la discussion, à travers la compréhension, à travers le rapport à ses parents, lorsqu'il n'a pas été éduqué petit, eh bien, comme il n'aura pas les mots, il va frapper, il va cogner. Et puis, il y a l'effet de meute qui, évidemment, est encore amplifié par les réseaux sociaux. Voilà, donc je crois que c'est intéressant d'aller regarder à la racine du mal plutôt que de le regarder exclusivement sous l'angle sociologique.
Marc Lambon, vous reprenez le terme d'ensauvagement?
Non, je dirais plutôt pour renouer avec ce qu'on disait auparavant, c'est que la récession de la lecture, ça va aussi avec une délégitimation et de l'école et de l'autorité. Et il y a sans doute des raisons à cela. 4 ou 5, pour aller vite. Regardez d'abord le grand nombre de familles monoparentales avec des mères débordées. Et pas seulement dans les quartiers, comme on dit. Autre raison, c'est assez nouveau, je crois, depuis, c'était pas comme ça il y a 20 ou 30 ans, c'est l'arrogance des parents. C'est-à-dire le nombre de parents qui estiment désormais que leurs enfants sont des surdoués, sont des HPI, comme on dit.
Potentiel intellectuel.
Et qui s'en prennent aux professeurs, lesquels sont, là aussi, délégitimés, non plus par leurs élèves, qui après tout sont souvent un peu de la pâte molle au départ, mais par les parents d'élèves, n'est-ce pas? Troisièmement, il y a quand même quelque chose qui court en France depuis longtemps, c'est la dérision de toute autorité. Moi, j'appelle ça l'esprit Canal+, Canal+ d'avant, c'est-à-dire vous regardiez nulle part ailleurs, ça n'était que sarcasme envers tout ce qui était un peu vertical ou un peu ancien, c'est-à-dire que Le Monde avait été créé en 1950, Elvis Presley c'était le Trias, les Beatles c'était le Jurassique, tout ce qui venait avant était ringard. Ça a fini par porter, à créer des effets, je pense, dans le climat culturel général. Il y a encore deux choses, alors plus spécifiquement, il y a quand même le discrédit des études et de ceux qui les prodiguent par l'argent des deals. Ça, c'est un problème qui est posé. Et enfin, il y a en effet des attaques fondamentalistes contre l'école laïque à la française qui vont jusqu'à l'assassinat. Bon, donc si vous additionnez tous ces facteurs ou ces cofacteurs, vous arrivez à une situation dont on se demande comment elle peut être traitée. Moi, je me demande, toute chose égale par ailleurs, à une époque, les États-Unis avaient inventé le tsar de la drogue, qui était un personnage, une sorte de cacique transministériel qui avait tout pouvoir pour s'en prendre. Je me demande s'il ne faudrait pas un tsar ou un sachem de l'école. Et je me demande aussi si Mme Belloubet est en situation de tenir ce sceptre.
L'actuelle ministre de l'Éducation.
Ouais, oui. En fait, la question que vous posez, c'est pas tant que dit la loi, mais qui dit la loi. En vérité, aujourd'hui, la difficulté face à une jeunesse effectivement assez violente et assez impulsive, c'est qui va dire la loi? Qui va dire maintenant, c'est stop, c'est la loi. Je vois même que dans les prétoires aujourd'hui, même du côté des victimes, hein, même du côté des parties civiles, je ne suis pas d'accord avec ce que dit le juge. Mais qui dit la loi? C'est le juge qui dit la loi, a priori. Donc même cette autorité-là est entamée. Et pour revenir à Maurice Berger, lui, sa thèse, c'est de dire que le premier tabassage, parce que le droit au tabassage, c'est finalement presque un rite de passage. C'est-à-dire, on est jeune, donc on y va en groupe, on y va en meute, on se moque de quelqu'un, il y a harcèlement, on tabasse. Eh bien, ce premier droit-là, il doit y avoir déjà quelqu'un qui dit stop. La loi, c'est non. Et on dit stop en punissant. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, qu'on n'est pas dans une société qui l'a permis jusqu'à présent, mais j'ai quand même le sentiment qu'on est tous d'accord sur cette question, qu'il faut signifier la loi le plus tôt possible.
Vous savez, c'est pas d'aujourd'hui, parce que ça s'appelait aux États-Unis la loi de Lynch, au 19e siècle, et Sartre avait élaboré la notion de groupe en fusion,
tout à fait,
qui est précisément cette coalition d'énergie négative sur un bouc ou contre un bouc émissaire.
Vous souhaitez également, Marc Lambron, revenir sur l'affaire du petit Émile, ce garçon qui avait 2 ans et demi quand il a disparu en juillet dernier, dont on a retrouvé des ossements ces derniers jours dans le village du Auvernais, dans les Alpes de Haute-Provence. Pourquoi cette affaire a fasciné les médias et donc avec eux, leurs lecteurs?
Oui, pourquoi un fait divers plutôt qu'un autre? À mon avis, c'est parce que ça raconte, c'est une histoire qui en raconte d'autres. C'est qu'il y a du substrat, ça cristallise plusieurs passés. D'abord, on est dans un cadre rural et pas dans un cadre urbain. On est dans une de ces îles de l'archipel français, et il peut y avoir toujours une fascination du distant, notamment chez nous, dans nos métropoles, et même du mot. Le Auvernais, c'est comme la Vologne. Gérard de Nerval en aurait fait des poèmes, sauf que il ne s'agit pas de poèmes. Deuxièmement, il s'agit quand même à chaque fois de micro-communautés, c'est-à-dire qu'on est à l'échelle du hameau ou du bourg, avec toutes les rumeurs et toutes les suspicions locales. Il y a un film qui emblématise ça depuis assez longtemps, c'est Le Corbeau de Clouseau, 1943. Il y a aussi, vous avez vu que dans cette affaire, il y a eu des suspicions passagères sur un aïeul de la famille. Oui. Et ça nous remet dans un fait divers des années 50, qui était l'affaire Dominici, où là aussi il y avait un patriarche qui a été fortement soupçonné d'être un meurtrier, et même Jean Gabin l'a interprété au cinéma. Vous voyez, il y a Clouseau, il y a Jean Gabin. Il y a aussi un milieu très catholique. Ça se passe dans un milieu qui est présumé plus vertueux que d'autres. Or, on a vu des horreurs dans un milieu comparable. Mettons, c'est l'affaire du pont de Ligonnès, qui a quand même beaucoup imprimé, comme on dit récemment. Et dernière chose, donc ça fait quand même beaucoup de strates, beaucoup de références. Et une dernière chose, la mise en situation qui a eu lieu deux jours avant la découverte des restes humains. Donc on convoque 17 personnes. Ça me fait invinciblement penser à la façon dont le plus grand détective belge francophone, c'est-à-dire Hercule Poirot, résout à la fin des romans d'Agatha Christie l'énigme en convoquant et en confrontant les protagonistes. Sauf que là, l'énigme n'est pas résolue.
Je rejoins Marc Lambron. Je pense qu'il a le prochain thème de son roman. En réalité, c'est pas un roman national. C'est un roman, vous avez raison, parce que c'est un whodunit. On revient effectivement à la question de qui.
Oui.
Qui. Mais ce qui aussi nous frappe, c'est que nous sommes tous des enquêteurs, nous les Français.
Sans savoir d'ailleurs s'il y a eu quelqu'un. Puisqu'on la thèse de l'accident.
Au départ, on parle
revient
aussi. Absolument.
Disparition.
Au départ, on enquête sur une disparition. Mais effectivement, nous sommes tous des enquêteurs. Et nous savons, nous les Français, que nous avons cette culture littéraire du feuilleton. C'est-à-dire de qu'est-ce qui va encore se passer. Mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est aussi la victime. C'est que c'est la victime, c'est toujours un enfant dans cette thématique. Oui. C'est-à-dire que nous avons besoin quand même, nous autres Français, de communier autour d'un fait divers, aussi tragique soit-il, comme s'il fallait effectivement ensemble chasser. C'est ce tragique.
Une affaire qui a hanté les enfants des années 60, dont j'étais, c'était L'Étrangleur. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Le petit, comment s'appelait-il, Luc Taron, je crois. Et un personnage qui s'appelait Lucien Léger, qu'on a cherché assez longtemps.
Qui a été le plus ancien détenu de France. Voilà. Il est sorti très tard de détention. Ouais.
Et dont certains prétendent aujourd'hui qu'il était innocent. Il y a eu, je ne sais plus comment s'appelle ce romancier, qui a écrit un livre tout à fait circonstancié sur ce Lucien Léger. L'Étrangleur.
Ça vous fait de beaux sujets donc d'enquête pour vous, Sophie Obadia, ou de romans pour vous, Marc Lambron. Merci beaucoup d'avoir été ce matin nos deux esprits libres sur Radio Classique, et très bonne journée. Il est 8h56, dans quelques instants, la météo avant de retrouver Franck.